pot, 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 pot. Et la brique, c'est de la merde, toi-même, tu sais. Pot, 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 pot.
www.libradio.org, la radio qui fume du schmitt et qui kiffe pas les keufs.
Nous sommes aujourd'hui au bus Cartouche. Le bus Cartouche est juste derrière la gare Cornavin ici à Genève, en compagnie de deux personnes qui vont nous parler d'un événement en particulier, mais également d'un engagement et d'une entité dont on va savoir si vous l'avez créée vous-même ou si vous l'avez rejointe. Et on va parler des raisons pour lesquelles vous l'avez rejointe. Cette entité, c'est la permanence juridique. Cette permanence juridique, elle se tient au Silur. Peut-être dirions-nous, diriez-vous, quelques mots du Silur, vous êtes d'accord? On peut effectivement déjà le situer géographiquement. Et puis peut-être que pour commencer cet entretien entre nous, nous pourrions d'ores et déjà annoncer un site internet sur lequel on trouve plein d'informations concernant ce qui se passe au Silur. Le programme, par exemple, c'est Renversé, donc www.renversé.co. C'est ça?
Exact.
Ok. Alors à vous la parole. Est-ce que, voilà, on commence par placer un petit peu le Silur?
Oui. Alors, nous, on a rejoint le Silur. En fait, on n'est pas dans le collectif du Silur, mais on a rejoint le Silur à travers la permanence juridique. Et voilà, du coup, enfin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le Silur en particulier.
Ouais, je crois que c'est un lieu qui se vend, un espace ouvert sur le quartier et puis sur la ville, et puis un espace de discussion politique, d'événements divers et variés, et qui dans lequel il y a quelques groupes qui gravitent quand même. Il y a l'Infokiosque, qui est une bibliothèque assez connue. Il y a Perse-Frontière qui fait notamment des permanences les vendredis sur des thématiques différentes avec des personnes concernées. Il y a les permanences féministes le mercredi soir, je crois. Et il y a les permanences le jeudi soir qui sont sur des thèmes divers et variés. Là, en ce moment, le cycle, un peu, c'est sur le travail, parce qu'on est en mai, du coup, voilà, c'est le travail. Et il y a aussi un collectif de soins qui faisait des permanences le lundi, je crois. Et je crois que ça s'agrandit au fur et à mesure. Du coup, nous, on s'est un peu inscrite là-dedans, dans ce truc un peu d'ouverture et de diversification un peu des activités du Silur, je crois.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui faisait défaut ici à Genève, un tel endroit où on puisse justement prélever, enfin, où plein de collectifs justement puissent se mobiliser et puis avoir ce point de contact avec la société civile, la population, les gens?
Bah surtout les espaces de discussion qu'ils proposent, les conférences ou bien les permanences, c'était vraiment quelque chose qui manquait. C'était un espace qui permette de se réunir, de pouvoir s'organiser, de pouvoir se sentir en sécurité et puis ouais, de... Enfin, tout ce qu'il permet, en fait, c'est vrai que ça manquait.
Et comment s'est passé vos relations avec votre installation, pardon, Silur? Je dis ça parce qu'effectivement, quand on dit voilà que c'est un lieu qui faisait défaut, c'est aussi souvent qu'il manque d'espace où les personnes puissent aller et puis assez facilement organiser des choses sans que voilà l'argent se ressente des choses ou que des attitudes un petit peu compliquées s'installent. Alors là, ça s'est bien passé.
Bah oui, je crois que ça s'est bien passé aussi parce qu'il y a pas mal de connexions informelles, en fait. Ça, c'est un truc à relever, je pense. Et puis qu'en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et puis je crois qu'il y avait la volonté d'inscrire une permanence juridique dans ce truc d'espace de quartier, victime de gentrification. Enfin voilà, il y avait, et du coup, de droit du bail. Et je pense qu'il y avait un peu un truc qui se construisait. Et puis de voir un peu que le droit, je pense, en tout cas cette manière d'utiliser le droit, ça pouvait être utile aux différentes luttes qui sont au Silur, quoi. Qui sont abordés au Silur.
D'accord. Alors, on va le dire, le Silur, ça se trouve aux 3 Sentiers des Saules. C'est juste après l'angle du Café Ethno, s'il y a encore.
Ouais.
Et puis, il y a le pont, l'Ethnobar, et puis c'est le pont sous terre.
Exact.
Juste là. Le tram 14 s'arrête pas loin.
Paladium,
je crois. Paladium, ou Stan.
Non,
plutôt Paladium. Et puis après, voilà, à pied, c'est 10 mètres, quoi. Enfin, tout ça pour dire qu'on peut y aller tranquillement. C'est vraiment tout près de l'arrêt de tram. Et puis,
faut monter les petits escaliers en colimaçon blanc.
Voilà.
Et voilà, on y est.
Et qu'on l'a dit, mais on va le répéter, www.renversé.co, là, on y trouve particulièrement le programme du Silure, que l'on trouve aussi sur place, joint avec plein de flyers devant le magnifique infokiosque, effectivement.
Exactement.
Très bien. Alors, venons-en à cette permanence juridique. Comment ça s'est, d'où est venue cette idée de permanence juridique et à quel besoin est-ce que, est-elle censée répondre ?
Alors, comment elle a été créée ? Je crois qu'elle a été créée, il y avait des envies un peu différentes des personnes qui l'ont montée au début. Du coup, on a quand même des horizons assez divers et il y a des personnes qui venaient de syndicats, il y a des personnes qui exercent déjà la profession d'avocat. Et puis, nous deux étudiantes, du coup, on avait des motivations diverses. Mais je pense qu'on s'est retrouvés un peu autour de la volonté de faire du droit un outil plus collectif et qui soit accessible pas seulement aux personnes qui ont la chance de faire des études ou qui ont la chance de pouvoir avoir accès à un syndicat, d'avoir un travail qui soit pas invisible. Donc il y avait pas mal de choses qui convergeaient et qui faisaient de cette permanence quelque chose d'utile à notre sens, je crois.
Ouais, et ouais. Puis nous en tant qu'étudiantes, on avait besoin, je crois, au bout de 3 années d'études, de cours très académiques, d'avoir quelque chose d'un peu plus pratique et puis de pouvoir un peu, de mettre en pratique des connaissances et puis aussi d'une manière différente et justement d'une manière plus collective, en groupe, en collectif avec des gens super chouettes et puis aussi avoir un peu un contact. Humain, parce que là pour l'instant on est derrière nos ordinateurs dans des salles de classe, dans des auditoires, et c'est vraiment quelque chose qui moi m'a ouvert un peu les yeux sur, en fait, t'as la théorie puis après t'as comment ça se passe et puis le droit ça répond pas à tout, genre il y a des outils qu'il faut faire venir d'autres disciplines en fait pour vraiment pouvoir répondre au mieux. Je sais pas comment dire, c'est abstrait, mais voilà, c'est juste que c'était un apport qui sortait de l'apport que je pouvais avoir pendant les cours aussi.
Absolument. Une mise en pratique, des pratiques, tout ça. Le droit, est-ce que c'est une arme ? Et si oui, est-ce que c'est une arme qui peut être appropriée justement par les personnes qui en sont souvent victimes, c'est-à-dire les personnes qui ont peu de moyens de se défendre ? A priori, je veux dire, typiquement, les frais d'avocat, tout ça, c'est vite onéreux.
Moi, je pense que c'est... Moi, j'espère que c'est une arme, mais je pense que c'est une arme collective. Que je pense que ça s'apprend. Enfin, il y a des gens très doués qui apprennent, qui servent du droit seuls et puis qui arrivent et puis qui surpassent ce qui leur arrive, etc. Mais je pense que ce que nous on porte comme idée, c'est plus le droit comme un outil, comme une arme collective, dans le sens où chacun, chacune a une expérience. Avec le droit, que ce soit par la pratique syndicale, que ce soit par la pratique juridique, la pratique, nous, un peu derrière les bancs d'université. Mais je pense que une façon de le dire autrement, c'est qu'il y a plein de permanences juridiques à Genève. Et puis, en fait, je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de faire du suivi personnalisé, de faire des dossiers où les personnes arrivent et puis, en fait, nous confient leur situation juridique, mais plutôt regarder ensemble qu'est-ce qui va pas, ce formulaire, on va essayer de le remplir comme ça, puis plus être dans le soutien, le conseil, que d'être dans la gestion pour l'autre.
On n'est pas des mandataires.
Exactement. Le nous dont vous parlez, ce nous-là, qui est-ce ? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que c'est beaucoup, vous l'avez un petit peu ébauché déjà, mais je veux dire, est-ce que c'est plutôt pas mal des étudiantes et des étudiants, si oui, plutôt en droit ou pas que, ça pourrait être en sociologie ou d'autres disciplines, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Vous avez parlé peut-être de personnes qui proviennent de syndicats, y a-t-il également des avocats ou des anciens avocats ? Voilà, qui est ce « nous » ?
Comme on l'a dit, du coup, il y a on est étudiantes en droit, il y a « nous ». Il y a des personnes qui viennent de syndicats et des personnes qui exercent la profession d'avocat, comme tu l'as dit aussi. Ouais. Puis, du coup, ouais.
En fait, on est 5.
On est 5.
D'accord. Ouais. Alors, comment, justement, cette question-là, elle a une suite qui, enfin, elle annonce une suite qui est, par exemple, celle-ci. Comment se prennent les décisions? Parce que, effectivement, entre un avocat pénaliste qui a de l'expérience, une étudiante qui va peut-être plus regarder du droit civil, du droit constitutionnel, je sais pas, qui a moins d'expérience ou quoi, et en même temps, on sait bien que c'est pas que cette expérience qui fait la richesse du truc, mais voilà. À l'interne, comment ça fonctionne? C'est affinitaire également? Comment vous prenez des décisions quand il faut prendre des décisions?
Ben...
Vous en discutez, ouais, comme ça?
Ouais, on se réunit. On se réunit...
De manière assez informelle. Et puis on trouve... C'est le consensus qui règne, je veux dire.
Ouais. Enfin, disons qu'on n'est pas souvent tout le monde là au réu. Donc c'est un peu... Quand on est au réu, ben, on prend un PV et puis on prend des décisions parce qu'on est obligé d'avancer. Puis du coup, ben, ouais, ça se fait souvent... sur le consensus, même genre il n'y a pas eu encore de situation où il y a eu un gros désaccord.
Ouais, ouais.
Donc mais on s'était défini, voilà, enfin c'est comme on s'était défini, mais justement on s'est défini quand on n'était pas tout le monde là, donc mais on s'était défini non affinitaire en fait.
D'accord.
Et mais ouais, donc pour l'instant c'était un peu ça, mais vu que c'est très nouveau, ça peut encore évoluer, mais voilà la situation pour le moment.
Ouais. Et alors, est-ce que vous êtes plus sollicité ou c'est vous qui allez mobiliser un thème? Tu vois, est-ce que c'est plus des gens qui vont vous dire voilà, moi j'aimerais apporter cette notion-là, qu'on en parle, parce que typiquement je suis touché, je sais, ou que d'autres personnes sont touchées, ou est-ce que vous réfléchissez ensemble et vous dites voilà, on va aller sur par exemple le droit du travail parce que on observe que là il y a en tout cas au sein de la population un déficit majeur de connaissances et un problème de pression également.
Tu dis comment on a choisi de faire une permanence de droit du travail et droit, parce que on fait les permanences le samedi matin.
Oui.
Puis on fait aussi les événements, en fait les deux trucs.
D'accord.
Du coup.
Alors la question c'était pour commencer, c'était de savoir si c'était plutôt vous qui aviez l'impulsion de dire on va parler de ce thème-là, par exemple le droit du travail, ou si c'est des gens de l'extérieur qui amènent des thèmes et qui disent moi j'ai été touché dans ma vie par un problème.
Bah, je pense que c'est un peu des deux, parce qu'à la base, il y avait des personnes qui étaient compétentes pour le droit du bail, d'autres pour le droit du travail, un petit peu pour le droit des étrangers et étrangères. Et du coup, en fait, après, on a rapidement, au fil des permanences, on a vu qu'il y avait une demande en droit des étrangers, avec la lettre avant et la lettre maintenant. Et en fait, on a discuté lors d'une réunion et il y a eu une volonté de pouvoir répondre aussi à des questions comme ça. Et puis, en fait, il y a plus ou moins d'accord là-dessus, mais en fait, c'est venu aussi par un besoin.
Ouais, parce que j'imagine que vous devez également filtrer un peu, enfin, dans le sens où tout le travail que j'imagine que vous devez fournir pour arriver à devenir des spécialistes de la question, typiquement, on va en parler tout de suite, mais quand tu parles l'œil ou l'être, il s'agit de la loi sur les étrangers et l'intégration. Non, mais c'est normal que je le dise moi, mais la loi sur les étrangers et l'intégration, et la lettre, c'est la loi sur les étrangers qui est une version hard, qui est amendée, si j'ai bien compris, par la loi.
Ouais, elle est abrogée, en fait.
Elle est abrogée, ouais, voilà.
C'est l'inverse.
Ouais. C'est-à-dire que c'est...
Maintenant, c'est la loi.
Voilà, c'est ça.
Avant,
c'est... Oui. Alors, je me suis mal exprimé, c'est à ça que je pensais. On va y venir là-dessus dans quelques instants. Mais effectivement, pour vulgariser tout ça, j'imagine que c'est un gros travail, parce que vous-même, vous devez être, du coup, extrêmement alerte, trouver tous les recoins. Cette loi, elle fait je sais pas, 30 pages, quoi, je veux dire. Voilà, et puis après, il faut arriver à reprendre ces mots-là pour les rendre audibles par les gens, par nous, finalement. Et ça, j'imagine que c'est le gros du travail.
Ben, c'est ce qu'on voudrait faire, mais collectivement, en fait. Enfin, on voudrait pas que ce soit nous qui fassent le travail. Enfin, je veux dire, on s'adapte, genre. Mais s'il y a des gens qui ont juste envie de savoir leur situation et pas d'apprendre, enfin, qui ont juste envie qu'on leur dise quelle est leur situation juridique et pas de savoir et de comprendre, ben, on s'adapte aussi. Mais si, enfin, on essaye aussi de toujours faire en sorte qu'on comprenne collectivement ce qui se passe.
Ouais.
Et puis, je pense que, ouais, je pense qu'il y a ce truc aussi où nous, on se rend compte, en fait, que c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'université, en fait. On n'apprend pas à rendre ça accessible. En fait, on apprend le droit comme une arme d'oppression et pour écraser les autres, en fait. C'est clair.
Ouais.
Du coup, je pense que c'est à ça aussi que ça répond, en fait. Cette volonté aussi de faire du... Mais peut-être que c'est utopique, hein. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est utopique, mais moi, j'aime bien y croire. Mais... Mais ouais, un peu casser toutes ces barrières. Et puis, en fait, c'est méga élitiste. C'est une arme de pouvoir et puis de violence à plein de niveaux. Et nous, je pense qu'on peut dire qu'on est des personnes privilégiées, on le voit aussi, en fait, comment les gens s'en servent au quotidien. Et puis, en fait, ça fait assez peur, je crois.
Ouais.
Mais voilà.
De quelle manière est-ce qu'on peut dire que c'est effectivement une arme élitiste et qui est, en tout cas, pour le moment, aux mains d'une bourgeoisie de classe? Est-ce que c'est par le au niveau du champ sémantique? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. On voit bien qu'il y a des articles qu'on pourrait simplifier si on le souhaitait pour de vrai. Mm-hmm. Ou pas, je ne sais pas. Hein, je pose la question. Et effectivement, il y a tout ce côté financier. C'est vrai que quand on veut consulter, même si, comme vous l'avez dit, il y a des permanences et vous-même, j'imagine que vous fonctionnez sur d'autres ressorts qu'un salaire. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est aussi une forme de, j'allais dire, de censure administrative, mais en tout cas de difficulté pour se défendre.
Ouais, ce truc de comment c'est une arme de pouvoir, je sais pas, nous on le voit en fait parce que ça, en fait, ce qu'il y a dedans, le contenu du droit, il est méga archaïque et il est méga conservateur d'un ordre moral de droite, clairement, mmh. Et puis sexiste, et puis raciste, et puis plein d'autres choses pas chouettes. Et après, est-ce que c'est possible de le transformer en se le réappropriant? Ouais, peut-être, je sais pas, mais...
Oui, ça se fait.
Ouais. Bah, faudrait réécrire presque les lois, en fait, c'est ça?
Ouais, alors ça, je laisse le soin à d'autres de faire ça, mais peut-être. Ouais.
Très bien, très bien. Alors voilà, la permanence juridique, de quelle manière est-ce que vous fonctionnez? Les lieux, les horaires, enfin, toutes ces choses-là.
C'est le samedi de 10h à midi.
Tous les samedis, au Cellule.
Tous les samedis, ouais. En général, s'il n'y a pas, c'est marqué dans le programme. Mais normalement, c'est tous les samedis. Puis... Je crois que c'est un samedi sur deux ou je sais pas, mais il y a le droit du bail en plus du droit du travail. Et au Cellule.
Toujours au Cellule, donc on l'a dit, 3 Sentier des Saules, le 34, on l'a pas dit, il y a une adresse mail cellule@riseup.net, ça on peut le dire parce que c'est sur les flyers, c'est public quoi. Là c'est le droit du travail et on va y venir parce qu'effectivement le 11, eh bien, il va y avoir un événement dont vous avez déjà ébauché. Mais j'aurais voulu savoir, y a-t-il déjà des thèmes qui vous habitent, que vous auriez envie d'aborder?
Tu dis des...
Au-delà de la loi, là on parle du travail plutôt, ouais. Mais par la suite, il y a des thèmes un peu centraux comme ça, dont vous sentez qu'ils sont effectivement équivoques, incompréhensibles, ou en tout cas qui sont problématiques dans la société, typiquement pour les étrangers, pour des choses comme ça.
Bon, ça, je dis comme ça, hein.
Oui,
on n'a
oui.
pas discuté, mais par exemple, la question du travail des personnes étrangères qui sont soumises, par exemple, à la LEI ou à la LASI, enfin, la loi sur l'ASI, du coup. Ça, je pense que c'est quand même un sujet qui est aussi hyper obscur, en fait. Y avait aussi peut-être l'envie de se former sur le droit applicable, le droit du travail aux personnes qui font travail domestique et puis aussi les coursiers coursières à vélo.
Ah oui, mon dieu, voilà. Situation affreuse.
Ouais. Après, on s'est quand même dit que on voulait pas anticiper les besoins des personnes qui exercent ces métiers là et puis qu'en fait on préférait aussi un peu attendre, voir les besoins et les envies des personnes qui venaient aux permanences et puis aussi avec qui on a contact dans notre vie voilà. Et puis plutôt construire ça avec les personnes concernées. Dans la mesure du possible, pour que ça soit plus pertinent et que ça réponde en fait à des questions des personnes si elles ont envie qu'on y réponde, besoin.
Ouais. Les personnes,
souvent elles sont très bien formées aussi et puis elles se débrouillent très bien.
Okay. Ah bah c'est bien, vous constatez que les personnes s'auto-forment alors quand même pas mal.
Bah je pense oui, ouais. Ça devient une arme d'autodéfense aussi.
Génial, donc, c'est super que ce soit qu'on ait passé ce cap là et puis que les personnes s'approprient le truc quoi. D'ailleurs, c'est ce que vous faites également avec justement tous ces ateliers sur lesquels on va venir. Dernière question avant que l'on vienne justement sur cet événement du 11, est-ce que effectivement les gens peuvent venir vous voir directement au Cellule pour vous poser des questions ou est-ce que on peut vous contacter par mail ou comment est-ce qu'on fait justement si une personne souhaiterait vous approcher? J'imagine bien que quand on est dans des situations un petit peu délicates et qu'on est touché, des fois on a un petit peu peur, on est un petit peu rétif, on entre difficilement en contact avec... on sait hein, typiquement aussi pour les aides sociales qu'il y a moult personnes qui n'y font pas recours alors qu'elles auraient droit. J'imagine que pour ce thème-là, c'est également ça existe. Ouais. Et alors voilà, comment est-ce que les personnes peuvent vous contacter plutôt en venant aussi hurler un samedi?
Ouais, je crois qu'on s'est dit qu'on faisait plutôt ça et qu'on ne voulait pas trop ouvrir d'adresse mail ou comme ça ouverte au public. Mm-hmm. Après, on essaye de flyer, d'aller poser des flyers là où on pense que c'est bien de les mettre et puis qu'on rencontre comme ça des gens en plus.
Voilà. Mm-hmm. Très bien. Ça vous dit, on passe à cet événement du 11. Mm-hmm. Alors, le 11, eh bien, vous allez parler de la LEI, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, la loi qui régit le domaine des migrations qui remplace la lettre LETR, qui était la loi sur les étrangers, sinistre loi mise en place par Blocher. Ça, je lis la petite présentation qui est faite sur le flyer. Discussion sur les changements induits par la loi, notamment autour des conditions d'obtention et de révocation des autorisations de séjour. Alors, dites-nous, comment ça va se passer?
Bah, en gros, nous, on a voulu faire cette présentation pour se former collectivement. Soit parce que on a voulu ouvrir cet après-midi, soit parce qu'au fait, c'est des personnes concernées et qui ont envie de se former. Soit parce que c'est des personnes qui travaillent dans des associations qui travaillent avec cette LEI. Soit parce que c'est un sujet qui... Le domaine de la migration est un sujet qui nous intéresse ou dont on est sensible. Donc c'est un peu l'idée. Et ça va être une présentation ça va être un premier jet en fait, parce que on n'est pas spécialiste et puis on n'a pas fait des recherches très poussées. En fait, on va juste présenter ce qui se dit. Et donc on a lu en fait des rapports de juristes où on est rentré en contact avec quelques personnes qui travaillent dans des assos qui nous ont dit qu'est-ce que elles pensaient qu'elle allait être problématique, parce qu'elles ont la pratique, du coup elles arrivent à
elles ont pu investiguer et puis l'expérience a fait que elles ont une vue d'ensemble, parce que c'est effectivement, quand on essaye, moi j'ai essayé aussi de lire un petit peu cette loi, c'est vrai qu'il y a comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de la sémantique, il y a des mots, du vocabulaire qui est compliqué, des formulations qui sont elles-mêmes compliquées, qui des fois sont extrêmement incompréhensibles quoi, d'une certaine manière. Et alors justement, le programme, ce sera comment? Donc comme d'hab, 10h samedi.
Non,
qu'est-ce que je dis? Ce sera pas samedi, c'est...
Oui, c'est samedi, oui, mais c'est du coup, samedi. Il y aura la permanence de 10 à 12, mais du coup, ce sera à 17h la présentation.
Ah, voilà, alors donc il y a la permanence normale, 10h midi, et puis l'après-midi à 17h, c'est ça?
Exact.
D'accord, à 17h, toujours aussi lourd.
Mm-hmm.
Ok. Et puis à ce moment-là, le programme donc se déroule, les gens arrivent tranquillement, prennent place, ça discute.
Mm-hmm.
Très librement comme ça.
En fait, on ne sait pas du tout s'il y aura beaucoup de gens ou pas.
Ouais.
On est un peu dans le flou à ce niveau-là. Mais le but, ce serait... s'il y a peu de monde, on adapte. Et puis, ce sera plus un format discussion, je pense.
Mm-hmm.
Et puis, on va essayer de voir aussi qu'est-ce que les personnes, elles attendent de cette présentation. Et si on est beaucoup, on va essayer de justement plus faire une présentation où d'abord un moment où nous on va parler, puis à la fin peut-être un moment de discussion, mais on verra.
Ouais, tout à fait. On peut dire que c'est un numéro zéro, d'une certaine manière, c'est une impulsion de départ, et puis parce qu'il faut bien commencer à un moment donné, et donc après vous verrez, vous adapterez effectivement à chaque fois selon quoi. Une date ultérieure est déjà prévue?
Pour la LEI.
Ouais, concernant la LEI.
En fait, je crois que ça va vraiment dépendre des personnes qui sont là.
Ouais, d'accord.
Et puis, si elles ont des questions auxquelles on ne peut pas répondre, ce qui est peut-être potentiellement le cas, ce sera potentiellement.
Ouais. Alors, quelle est selon vous, justement, parce que si j'ai bien compris, cette loi abroge et remplace la loi d'avant. Y a-t-il, selon vous, quand même, en quelques mots, des points extrêmement problématiques ou des points sensibles sur cette LEI que vous avez d'ores et déjà identifiés?
Alors, de notre petit point de vue d'apprenti juriste, il y a de plus en plus d'obstacles au fait d'avoir accès à un titre, à une autorisation de séjour ou d'établissement, ou au renouvellement. C'est-à-dire qu'il peut être beaucoup plus facilement remis en cause, en fait, par l'autorité. Du coup, par exemple, ça veut dire qu'il va falloir avoir un niveau de langue spécifié en fonction du permis qu'on veut obtenir, ou auquel on a le droit, en fait, tout simplement. Il y a aussi des critères par rapport à de l'aide sociale, qui devient, en fait, le fait d'être bénéficiaire de l'aide sociale, ça devient un critère de rejet ou de non-renouvellement de, d'autorisation de séjour, comme si les personnes avaient choisi, en fait. Et en fait, je crois qu'on a remarqué un peu ce truc, cette tendance un peu en sous-jacente de culpabiliser les personnes précaires. Parce qu'elles sont précaires, elles vont être punies encore plus, comme si ça suffisait pas d'être précaire.
Ouais, un peu absolument. Ça.
Et puis aussi, je crois, le troisième aspect, ce serait le fait que pendant toutes ces procédures, les autorités, donc le SEM, donc en fait les autorités cantonales, fédérales, etc., elles ont accès à un nombre d'informations sur les personnes qui est absolument effrayant. Donc ça va être, tu me complètes, mm-hmm. mais ça va être par exemple le versement de prestations complémentaires. Ça va être le fait d'être exclu de l'école, où l'école va devoir collaborer avec les autorités.
Il y a une obligation, en fait, ouais. légale. Enfin, c'est vraiment une obligation
de collaborer. De donc, c'est une injonction plus mm-hmm. qu'une, qu'une collaboration. En fait, du coup.
Donc, si on se fait, si par exemple, on a un permis B regroupement familial mm-hmm. Et qu'on se fait exclure de l'école, on a 16 ans, je sais pas. Et ben, en fait, l'école, elle va aller voir le SEM et dire, regarde, il se fait exclure d'école. Bon, alors, ce sera peut-être plus le SEM qui ira voir l'école pour lui demander, mais enfin, on peut imaginer qu'il y a des choses comme ça. Il y a aussi le fait d'avoir accès au casier judiciaire et non plus à l'extrait, enfin et non pas à l'extrait de casier judiciaire. Donc ça, c'est quand même autre chose. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais c'est juste que là, c'est accentué, en fait. C'est vraiment détaillé et pour nous là, c'est vraiment, ça atteint à plein de choses. Et c'est assez effrayant, en fait, parce que c'est sous couvert d'intégration.
Mmh. Mais voilà, c'est ce que j'allais vous demander, c'est que dans l'œil, il y a le I pour intégration. Mmh. C'est cosmétique, c'est de la poudre aux yeux, c'est quoi?
Non, bah, que c'est justement une exigence, en fait, exigence de la loi. C'est pas la loi qui va pousser. Enfin, il y a une petite amélioration à ce niveau-là, c'est que les personnes qui ont une autorisation, c'est pas une autorisation de séjour, c'est un titre de séjour, mais qui n'est pas encore une autorisation. Donc d'accord. C'est un titre assez précaire, genre. Ouais. Voilà. Et en fait, avant, elle devait obtenir une autorisation pour travailler. Alors que là, avec la nouvelle loi, elles auront juste à déclarer qu'elles ont un emploi. Et elles n'ont pas besoin de requérir l'autorisation avant de pouvoir travailler. Donc, il y a juste cette petite. C'est dans d'accord. le but d'intégrer les travailleurs et travailleuses. Ouais, c'est ça, ouais. L'intégration professionnelle. Par contre, l'intégration pour les permis, humaine, pour les permis, ça, ouais. pour les titres, enfin pour les autorisations de séjour. Mmh. Par contre, là, ça va être plutôt pénalisant parce que si on voit que une intégration est pas réussie ou si on voit qu'en fait
Ça peut être éliminatoire. Peut,
ouais, bah en fait, ça, ils vont créer une convention d'intégration. Ça veut dire que c'est une convention entre la personne et l'autorité, et on va lui fixer des objectifs. Comme, enfin, c'est très infantilisant. Et si elle remplit pas les objectifs, c'est une mauvaise personne. Stigmatisant aussi, c'est genre, tu veux pas t'intégrer, ouais. voilà, donc mmh. on te punit.
Ouais. Et une phrase qui est dans les directives du coup de cette loi, qui a été faite par l'administration fédérale, ça résume hyper bien, à notre sens, je pense, le but de cette loi, c'est de dire, en fait, on doit mériter l'intégration, mais en fait, on en est responsable. Et c'est pas l'État qui va favoriser notre intégration, ni le fait d'être réellement intégré, c'est-à-dire avoir des amis, avoir plein de choses, un confort, etc. En fait, non, on doit la mériter. L'intégration. Puis je pense que c'est ça le pire.
Puis en fait, ce qui est aussi scandaleux, c'est que l'intégration, elle se mesure par la langue et le fait d'avoir un travail. Alors que justement, comme tu dis, il y a plein d'autres facteurs d'intégration totalement invisibilisés aussi.
Absolument, c'est clair. Donc effectivement, on voit qu'il y a de nombreux points pour le moins sensibles. Alors c'est une loi fédérale. Alors deux choses concernant la loi, donc il y a effectivement la Constitution, puis après il y a l'application de cette loi. Est-ce que là on voit déjà poindre, peut-être le savez-vous déjà ou pas, est-ce qu'on voit déjà poindre des mises en œuvre justement plus radicales ou offensives ou méchantes? Enfin, on voit en tout cas concernant... Ah oui, peut-être préciser déjà le SEM. Qu'est-ce que c'est que le SEM?
C'est le Secrétariat d'État aux Migrations. Voilà. Du coup, c'est l'entité fédérale qui s'occupe de tout ce qui est droit de la migration et puis...
Ouais. parce que justement concernant l'application, je voulais faire, mais on va faire à peine un coup, mais concernant les accords Dublin, on va pas revenir là-dessus, mais effectivement, on sent que à Genève et en Suisse, on est particulièrement attentif à la bonne application de cette horreur, ce qui fait que il y a une application qui est extrêmement rigoureuse, alors qu'on pourrait très bien et qu'il y aurait cette marge de manœuvre qui permettrait de pas appliquer entre guillemets bêtement, mais c'est pas bêtement le terme, cyniquement cette loi. Mmh. Et ça me permet de vous poser cette deuxième question. C'est une loi donc fédérale qui est du droit constite. Est-ce que les cantons auraient ou pourraient avoir une marge de manœuvre par rapport à ça, vous pensez, ou pas, je veux dire, est-ce que justement dans la mise en œuvre, dans l'application, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut quand même compter sur une forme de retenue des juges ou quoi, ou il faut pas du tout compter dessus et puis il faut lutter différemment, quoi.
Bah, je crois que le peu de choses que j'ai lues encore, parce que
c'est en cours, voilà.
C'est que du coup justement pour ces conventions d'intégration c'est du ressort cantonal et puis que du coup il y a une marge de manœuvre.
Ok, là-dessus. A priori. D'accord. Eh ben dites-moi, y a-t-il d'autres points sensibles comme ça dont vous avez envie de parler, ou là vous avez déjà énuméré pas mal de trucs bien durs. Non, parce que c'est vrai qu'on se dit effectivement si on est affligé de tout ça quand on arrive. Effectivement, j'ai l'impression que c'est presque utilisé comme un répulsif, en disant ne venez pas, regardez, de toute façon c'est pas possible.
Ouais. Puis peut-être préciser aussi que là cette loi elle s'applique du coup aux personnes qui viennent pas de l'Union européenne ni de l'accord de libre circulation des personnes. Enfin, mais du coup que c'est un régime applicable à un certain nombre de personnes, mais qui sont pas forcément non plus, c'est des personnes qui sont vulnérabilisées. Dans le sens que je crois que si ça s'aggrave à ce niveau-là, bah on peut s'attendre à ce que ça s'aggrave encore plus pour des personnes encore plus vulnérabilisées au vu du statut qu'il leur est accordé.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui viennent de l'Union européenne, il y a les personnes qui viennent de hors Union européenne, qui sont du coup les personnes qui sont à laquelle la loi est applicable. Et puis ensuite, il y a les personnes qui sont du ressort du régime de la Lazie. Ouais. Et puis là encore, là, je pense que c'est pas le sujet, mais je pense que tu pourras en parler mieux que moi d'ailleurs, mais que là c'est encore plus problématique en fait, et que ça va en s'empirant, j'ai l'impression.
On en revient d'une certaine manière à quelque chose que vous avez certainement pas connu, qui était cette politique des trois cercles. Qui date un petit peu, où le premier cercle était les pays amis voisins, un deuxième cercle les pays européens civilisationnellement compatibles, et puis le troisième cercle c'est les ennemis, quoi, en gros, donc l'Amérique latine, l'Asie, enfin tout ça. On en revient un petit peu doucement. J'ai l'impression que ça fait un peu le tapis d'une spirale qui va toujours vers, dans le même sens, qui est le resserrement des conditions, le fait de rendre toujours plus dur, cette chose-là, c'est ça.
Je trouve que c'est important de justement ta remarque, parce que ça montre en fait que historiquement la base elle est quand même à l'exclusion, et puis qu'en fait ça sort pas nulle part. Et puis en étudiant l'histoire du droit de la migration, on voit que c'est une continuité puis un cercle, comme tu dis.
Ouais, c'est une logique en fait. En fait c'est ça qui est fou en étudiant ça, en fait, que c'est si tu l'étudies de façon froide et rationnelle, tu dis bon, ok, c'est le régime légal. Mais quand tu grattes un tout petit peu, tu dis ah, en fait ça va pas du tout du tout. Et puis en fait je pense que c'est ça que ça nous apprend à faire, parce que à l'école on étudie article 1, article 2, article 3, qu'est-ce que ça dit, mais à aucun moment, ou très très peu, on nous dit ah, mais en fait on va reprendre un tout petit peu plus de recul et regarder qu'est-ce que ça fait au niveau pratique, d'où ça vient, pourquoi. Et puis moi je trouve que cette loi, ça montre bien que le droit c'est politique, et que ça laisse souvent dans le mauvais sens avec des enjeux xénophobes, racistes, comme on le voit, et que c'est ça contre lequel il faut lutter, je pense.
Là, je pense qu'on touche effectivement au cœur de votre implication, hein, quand on parlait justement des raisons qui vous mènent à passer du temps là de manière tout à fait bénévole et tout. C'est ça, c'est qu'effectivement, il y a du politique là-dedans, et il y a des enjeux qui ont trait à cela, et que c'est là-dessus qu'il faut lutter, finalement. Il faut dénoncer des choses, témoigner, les révéler, hein, souvent, parce que comme vous l'avez dit, c'est des niches, c'est souvent caché, incompréhensible, dissimulé derrière des trucs, hein, un peu derrière de la poudre aux yeux comme ça. Et ça, c'est le travail que vous faites à la permanence juridique.
Qu'on essaye, je crois.
Ouais.
Après, ouais, je pense qu'il faut aussi saluer tout le travail qui est fait par des collectifs depuis de nombreuses années dans ces luttes-là, en fait. je vais pas les nommer parce que je pense que je vais en oublier, mais elles se reconnaîtront. Mais ouais, que je pense que nous, c'est une source d'inspiration aussi. Et puis qu'on leur doit aussi. Je pense qu'on leur.
On leur rend hommage, tout
ouais,
simplement.
On leur rend hommage.
Et puis, l'hommage, c'est de continuer le boulot, de le diversifier, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il y a plein de niches, plein de cas particuliers, plein d'individualités, plein de choses que l'on doit encore révéler, justement, qui sont certainement méconnues, voire carrément inconnues, quoi. Mm-hmm. Très bien, très bien. On arrive tout doucement au bout de l'entretien, non, mais on va évidemment pas oublier d'annoncer également l'événement du 15. Mm-hmm. Voudriez-vous le faire maintenant ?
Ouais, on peut.
Allons-y.
Alors, du coup, le 15, il y a une discussion à partir du livre « Travail gratuit, la nouvelle exploitation » de Maud Simonet, qui est sociologue. Et les copains-copines ont préparé aussi une cartographie du workfare, du travail gratuit à Genève, et des processus de mise au travail. Donc, si je ne m'avance pas trop, je crois que ça va toucher un petit peu à toutes les formes de travail qui sont invisibilisées, et que ce soit à l'aide sociale, à l'assurance invalidité, dans plein d'autres secteurs. Mmh. Et que voilà, nous, ça nous paraissait cohérent d'aborder ces sujets-là, et c'est en collaboration avec la permanence féministe du Silure.
Oui, parce qu'effectivement, on pourrait parler du travail abstrait féminin. Et là, il y a beaucoup de zones d'ombre également. Mmh. On pourrait dire que là, il y a également une intersectionnalité, je pense, dans le sens où il y a le fait d'être femme et le fait d'être soumis à des travaux souvent justement non dits, comme la maternité, le ménage, hein, quand on sait que les personnes sont confinées à ce type de rôle-là. Donc tout ça, l'idée du 15, c'est de parler de tout ceci.
Je crois bien, oui.
Et ce sera donc au Silure. Toujours aussi lourd, 3 sentiers des saules à 19h le 15. C'est quoi comme jour? J'ai pas noté.
Le 15 mai, mercredi 15 mai.
Ah, c'est un mercredi.
Donc, ouais. Mercredi prochain.
Voilà. Et le workfare, donc, comme vous l'avez dit, c'est ces espèces de contreparties demandées contre une aide sociale.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'une personne qui serait à l'aide sociale, eh bien, devrait fournir un travail qui serait du coup également jaugé, jugé, etc., etc., pour pouvoir bénéficier de.
Il faut mériter d'être aidé, je crois, c'est ça.
Ouais, exactement. Très bien. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que vous avez dit plus ou moins tout ce qu'on devait dire aujourd'hui, sachant qu'on aura certainement d'autres occasions pour avancer plus loin, et que c'est clairement un travail, un work in progress, c'est-à-dire que c'est chemin faisant que l'on va acquérir des nouvelles notions et des nouvelles compétences par rapport à ça.
Oui, tout à fait.
Bon, bah en tout cas, je vous remercie beaucoup
pour ce
moment passé ensemble. On va le rappeler, c'est le 11, c'est la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. On va parler de ça. Ce sera au Silure. Donc, il y a la permanence le matin à 10h et puis à 17h la discussion autour de la loi. Et c'est donc 3 Sentiers des Saules, le tram 14 et les infos sur renversé.co.
Oui.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci.
Salut.
Tac 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 à la tac 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 tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre-attaque.